Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission et bonjour à tous les auditeurs, évidemment.
Aujourd'hui, deux sujets au programme. Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur, organisateur du Grand Chaos, organisateur professionnel du Grand Chaos, il nous a dit que lui est un professionnel et nous, on ne comprend rien.
Du maintien de l'ordre, mais on ne doit pas comprendre. Oui.
Et deuxième sujet, la guerre au Liban, Israël avance, prend le château de Beaufort, qui est un point stratégique important, et on va parler aussi de la béatification du patriarche maronite qui est à l'origine de la fondation du Grand Liban, et on expliquera pourquoi c'est quelque chose de symbolique et de très important.
Pour l'histoire et pour l'actualité surtout. Alors, premier sujet quand même, bien évidemment, ça a été difficile d'échapper au week-end de finale de la Ligue des Champions. Moi, je regarde jamais le football.
Moi non plus.
Mais
enfin, j'ai retenu qu'il y avait un match de football quelque part avec une équipe parisienne.
Ouais, voilà, avec le PSG. Et puis, comme à chaque fois, bien évidemment, quel que soit le résultat, en fait, vous avez le même phénomène avec, en gros, les matchs internationaux avec l'équipe d'Algérie. Moins les autres équipes africaines, c'est surtout l'Algérie.
Bon,
et puis le
Maroc,
PSG.
C'était gratiné aussi. Hein.
Maroc, c'est pas mal, mais sûr. Alors, Algérie, Maroc.
C'est les Marocains qui sont en cause. Quand il y a eu le match avec le Maroc, c'était pas un problème de Marocains. C'est que tout est occasion. Parce qu'on a vu dans les foules à l'époque de casseurs, des drapeaux algériens, des drapeaux. Enfin, tout est bon pour venir casser du blanc du français. C'est ça la vérité.
Et piller, parce qu'en fait, les deux ont eu lieu ce week-end, donc à l'occasion de cette soirée de finale, et on a assisté à des scènes proprement hallucinantes. Alors, pas qu'à Paris d'ailleurs, dans d'autres grandes villes, et vous avez eu des prédations, des vitrines cassées, des voitures incendiées, retournées, des agressions extrêmement nombreuses, alors sur des kidams, sur des passants et sur des membres des forces de l'ordre. On a eu 7 policiers blessés au total, dont 2 grièvement, un avec des traumas crâniens en particulier. Des commerces pillés, parce que c'est la razzia. Il faut bien rappeler que c'est grande activité.
C'est une habitude. C'est culturelle. Une culture qui date depuis plusieurs siècles.
Dans les déserts et dans le Sahel, c'est la razzia. Donc on en profite pour casser les magasins et pour piller ce qu'il y a dedans. Y compris parfois des magasins, vous savez, de fournitures, de décorations, de choses qui n'ont
tout
aucun rapport.
Tout est bon à voler. Voilà. Tout est bon à voler. Alors c'est vrai qu'il y a eu des razzias, des vols, etc. Mais M. Nunez nous dit que sur les Champs-Élysées, il n'y a pas eu de vol, donc tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Bon.
Oui, et qu'on ne pouvait pas employer le mot chaos.
Non, bien sûr, ce n'était pas le chaos, mais en fait, nous sommes tous des aveugles. On ne voit rien. D'ailleurs, remarquez, on fait tout pour ne rien voir. Parce que moi, j'ai regardé la presse le lendemain. Toute la presse du dimanche ne parle que de la victoire du PSG en football. Il n'y a rien, en une en tout cas, sur ce que vous appelez le chaos. Rien. Donc en fait, c'est normal. Lui nous dit qu'il n'y a pas de chaos parce que ses amis de la presse, à 90%, à part le journal du dimanche, enfin en gros, pour parler clairement, la presse du groupe Bolloré, c'est ça. Hein. Alors je ne parle pas de Radio Courtoisie, parce que Radio Courtoisie, c'est une radio, mais je parle de la presse écrite. Presse écrite, à part les journaux du groupe Bolloré, rien, en une en tout cas, rien. Donc bon, il se passe rien, c'est du... Comment on appelle ça? C'est des histoires de chiens écrasés, c'est du fait divers.
Bah alors ça, en fait, ça a toujours été l'argumentaire de Nunez, qui à chaque fois, mais de son prédécesseur aussi, il ne faut jamais oublier...
On en avait parlé l'année dernière, Pierre-Henri,
Nunez, de Retailleau. C'est une... Alors oui,
parce
mais je pensais
vous,
à Darmanin.
L'année dernière, il s'est passé la même chose.
Oui, tout à fait.
Le même genre de match, hein. La même chose, en moins pire. Parce que...
Je pensais plutôt à Darmanin, rappelez-vous, c'était une finale de Coupe d'Europe, je crois, où il avait rejeté la responsabilité des déprédations sur les fameux supporters anglais.
Oui.
Pas du tout, c'était des hordes de casseurs, de voleurs et d'agresseurs, surtout venus de la proche banlieue, de Seine-Saint-Denis et du mauvais 92, qui étaient venus en fait agresser les supporters et les passants pour, là encore, faire des razzias, c'est-à-dire taper des portefeuilles, arracher des chaînes.
Grande
partie.
Alors, vous êtes... l'année dernière, il y a eu un match similaire, il y a eu des émeutes légèrement moins importante que cette année, parce que plus on avance dans le temps, plus... Vous savez, quand vous faites une opération réussie, qu'est-ce que vous faites l'année d'après? Bah, vous augmentez le volume.
Évidemment.
Bon, bah, c'est comme ça. Si vous êtes commerçant, vous achetez 100 chemises, vous vendez les 100 en quelques minutes, bah, l'année d'après, vous prenez, vous achetez
vous
200.
Vous
prenez 200.
Là, c'est le principe.
Et donc, voilà. Et donc,
on augmente la
rendière. Ça s'est bien passé. Ils ont tout cassé, tout va bien. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, secondé par M. Nunez, d'ailleurs, Retailleau, nous a dit, ouais, globalement, c'était maîtrisé. Et ben, et vous savez, l'année dernière, combien? Alors, il y a eu, on vous dit, l'année dernière, nous avait annoncé, je sais plus, de quelques centaines d'arrestations.
Ouais, cette année, 900.
Oui, mais on s'en fiche des arrestations. Vous savez, ils sont libérés au bout de 24 heures.
Ouais.
Ce qui m'importe, moi, c'est les condamnations. Et pas seulement les condamnations, c'est le résultat de la condamnation. C'est-à-dire qu'il y a de la prison ou pas. L'année dernière, vous savez combien de condamnés il y a eu?
À peine une dizaine, je crois.
Cinq.
Ouais, cinq. Ouais.
Aucun n'a été en prison. Mmh. Aucun.
Ouais.
Donc cette année, sur les 900, il va y avoir 9 condamnations.
Voilà. Et encore.
Et
voilà.
Et donc, opération réussie. Les types savent très bien qu'ils ne risquent pas grand-chose. 5 condamnations sur des milliers de voleurs et de casseurs, c'est pas grand-chose. Et donc, ils recommencent. Mais Pierre-Henri, vous travaillez dans l'éducation nationale.
Ouais.
Vous êtes dans une école.
Ouais.
Vous êtes responsable de vos élèves.
Ouais.
De la sécurité de vos élèves.
Ouais.
Éventuellement de l'éducation, que l'enseignement que vous leur procurez.
Mmh.
S'il y a un échec patent, on vous licencie pour faute grave.
Ouais.
Si vous êtes vigile dans une société privée, vous vous endormez sur votre chaise et vous laissez des voleurs rentrer, on vous licencie pour faute grave, parce que vous ne devez pas vous endormir.
C'est d'ailleurs la sécurité et la santé des élèves, c'est notre première responsabilité civile et pénale.
Oui.
C'est-à-dire que c'est le premier motif de responsabilité devant les tribunaux, en fait. Alors, moralement, bien évidemment, mais aussi devant la loi. Donc là, on a l'État, dont la première mission, la mission régalienne numéro 1, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Oui, mais
est-ce que là, c'est réussi?
Non, ce que je voulais vous dire, alors c'est pas réussi, mais c'est toujours, on a fait au mieux, globalement, c'est convenable. Non, le devoir d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'assurer l'ordre, point à la ligne. Ce n'est pas de faire au mieux, c'est d'assurer l'ordre. Et vous, votre travail dans votre école, c'est d'inculquer l'éducation, l'enseignement à un élève et d'assurer sa sécurité. Pas d'assurer sa sécurité à moitié, pas de dire, il n'a eu qu'une main coupée, pas les deux, donc tout va bien.
Mais voilà,
parce que
j'ai
si
fait
votre
au mieux.
Élève,
voilà.
Si votre élève a une main coupée, pas les deux, vous ne pouvez pas arguer qu'il n'en a qu'une coupée, hein, vous êtes viré. Et donc, moi, ce qui m'épate, c'est que l'année dernière, M. Retailleau est resté droit dans ses bottes, nous a dit, ça va, il démissionne pas. Monsieur Nunez ne démissionne pas. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent ne pas démissionner. Non seulement ils ne démissionnent pas, parce qu'ils pourraient dire, oui, bon, c'était pas formidable, j'en suis désolé, et ne pas démissionner, ce qui est déjà pas très correct.
Oui.
Mais non, il nous dit, tout va bien, tout s'est bien passé. C'est comme si son rôle, à lui, c'est le relativisme. Le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte qu'il y ait 1 milliard de dégâts, pas 2 milliards. Vous voyez ?
Mais en fait, c'est sans doute pire que ça, et c'est pour ça qu'on intitulait cette partie Nunez organisateur du chaos, parce que... Une des interprétations qu'on peut avoir, et je pense qu'il y a quelque chose de vrai dedans, et ça fait longtemps que je le pense, et je suis pas le premier à le dire et à le penser, c'est ce qu'un penseur de droite américain a appelé l'anarcho-tyrannie. Et l'anarcho-tyrannie, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de gouvernement dans laquelle vous avez les classes moyennes, polies et bien élevées, qui sont votre vache à lait, parce que c'est eux que vous allez taxer, que vous allez imposer.
C'est eux qui ont payé les dégâts de ce week-end.
Donc vous allez garantir en fait l'apathie et l'absence de révolte en maintenant la terreur ponctuellement autour d'eux avec du limpène prolétariat, avec de la racaille. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'avec les Antifa, avec les Black Blocs. C'est, on peut faire des arrestations préventives pour garantir que dans une manifestation qui pourrait être un peu tendue, il se passe rien. On peut faire employer des moyens brutaux, comme on l'a fait avec les gilets jaunes.
Ou les paysans.
Ou les paysans, c'est-à-dire le canon à eau et le LBD.
On a sorti des voitures... Des
voitures semi-blindées, des blindés légers.
Oui, des blindés
légers. Des scorpions, je crois que ça s'appelle des modèles scorpions.
On a sorti des blindés légers contre les paysans.
Oui.
Là, il n'y avait même pas... De véhicules à jet d'eau. Vous savez, les véhicules de la police qui
oui,
vous envoient un jet d'eau, un canon à eau. Il n'y en a même pas eu. En fait, il n'y a rien.
Donc, ça veut bien dire que c'est fait partiellement exprès. Alors, il y a plusieurs explications. Et l'explication qui, moi, me semble la plus vraisemblable, c'est qu'on laisse faire pour foutre la trouille aux bourgeois. Et quand je dis le bourgeois, c'est vraiment en fait la majorité de la population bien élevée et qui paye ses impôts. Donc là, de temps en temps, une petite émeute qu'on leur montre ce dont sont capables les populations immigrées de banlieue, eh bien, ça fout la trouille à tout le monde. Désolé d'être grossier, mais on laisse faire exprès. En revanche, si c'était bien évidemment n'importe quelle manifestation un tant soit peu de droite qui, comme d'habitude, se tient très bien et dans lesquelles il n'y a jamais de problème, et là, on fait interdictions préventives. La préfecture n'autorise pas la manifestation, etc.
En fait, on fout la trouille, etc. Oui, mais en réalité, on a peur. Le ministre de l'Intérieur, d'abord, il nous explique que la normalité, c'est que lorsqu'il y a un événement, d'ailleurs, c'est pas le sport, hein, c'est pas juste le foot, ça peut être n'importe quel événement, 14 juillet, Nouvel An, une manif quelconque sur quelque sujet que
c'est
ce soit.
C'est qu'il y a des émeutes.
Dès qu'il y a un événement, il y a des émeutes et des. C'est pas des. Moi, je refuse le terme émeute. C'est une guerre. Oui. On est en guerre contre ces gens. Je vais le démontrer dans quelques secondes. Et donc, il nous explique que non, c'est simplement ce qui se passe, c'est qu'il nous a prévenu de quelques jours avant. D'ailleurs, il nous dit, il va y avoir de la casse, je vous préviens. Mais enfin, il n'est pas là pour nous prévenir, il est là pour l'empêcher. Et donc, mais il nous explique que on peut pas l'empêcher parce que c'est la nature des choses. C'est comme ça, c'est normal, il y a un match de football, il y a des gens qui sont joyeux, et puis ça déborde en casse. C'est faux. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le sport, ni le Nouvel An, ni le 14 juillet. Il suffit, s'il est auditeurs de Radio Courtoisie ou d'autres Français qu'ils prennent quelques minutes pour regarder les images. Que voit-on ? Des gens qui s'en fichent royalement du football, qui sont là avec des drapeaux. Vous savez, quand vous faites la guerre, vous avancez autrefois dans la guerre de sécession aux États-Unis ou dans les guerres napoléoniennes, lorsqu'ils chargeaient, lorsque les soldats chargeaient, il y en avait un qui portait le drapeau. Et lorsqu'il tombait, il y a quelqu'un d'autre qui le ramassait, qui le prenait.
Tout à fait.
Donc, le drapeau, c'est important. Ce n'est pas rien, le drapeau. Et donc, là, il s'agissait d'un match de football entre une équipe parisienne, française, et une équipe anglaise. Et donc, les drapeaux, c'est quoi ? C'est le drapeau palestinien, le drapeau algérien, le drapeau tunisien, le drapeau turc, et que sais-je encore. Et donc, pourquoi ces drapeaux ? Parce que ces gens-là viennent faire la guerre. Ce sont des guerres culturelles qui viennent de chez eux. Ça, c'est compris, la razzia est le butin de la guerre. C'est simple, c'est le butin de la guerre. Ils viennent se battre, c'est pour ça que quand je vous avais dit razzia, mais il n'y a pas que les razzias. Ils se battent contre la police.
Ouais,
la police, c'est l'armée française pour eux.
C'est représentation
et eux,
de l'État
ils sont
et du
l'armée
pays.
De l'Algérie, de la Tunisie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils sont là pour faire la guerre à la France. Ils viennent casser du policier, donc du français. Et puis, la razzia, c'est le bonus. C'est le butin de guerre. C'est-à-dire, on a battu les policiers, ils n'ont pas pu nous empêcher de rentrer dans une rue. Et bien, on en profite pour voler. Donc, j'insiste sur ça, c'est que la razzia est secondaire. La razzia n'est que le butin de la guerre, qu'ils considèrent avoir remporté. La preuve, c'est qu'ils ont pu rentrer dans une boutique.
Ça s'inclut dans une guerre plus large.
On vient casser du policier. D'ailleurs, les débuts de cette affaire, le samedi, ça a commencé avant 8h du soir.
Ouais.
Et c'était Porte de Saint-Cloud. Il n'y avait pas encore des magasins volés. Ça a commencé comment ? C'était des bicyclettes que l'on loue, vous savez, les bicyclettes en libre-service, qu'on envoyait sur la tête des policiers, avec lesquels on faisait des montagnes des barricades, et on jetait des pavés sur les policiers et des bicyclettes sur leur tête. C'est comme ça que ça commence. Donc, c'est d'abord l'agression des policiers. Alors, juste pour conclure, la police fait bien son travail. Alors, M. Nunez, lorsqu'il a été critiqué, il était entouré d'un préfet et d'un commissaire de police et de je ne sais qui, tous en uniforme, et il a dit « Tous ces gens donnent des leçons, ils ne connaissent rien, les professionnels, ils ne sont pas en face, ils sont à côté de moi. »
Les fameux professionnels.
Certes, ils sont professionnels du maintien de l'ordre, mais le problème n'est pas le maintien de l'ordre. Le problème, c'est son... vous savez, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, les policiers, mais s'il y a 2 millions de... C'est quand vous faites la guerre, si vous êtes 500 et en face de vous, vous avez 2 millions de soldats, vous avez beau être le plus fort, le mieux armé, le mieux équipés, vous êtes débordés par le nombre.
Évidemment.
Les policiers ne peuvent pas faire des miracles. Ces populations, et j'en conclue par là, qui sont-elles et pourquoi sont-elles là ? Je viens de dire pourquoi elles sont là pour faire la guerre à la France. Qui sont-elles ? Qui sont-elles ? Personne ne veut le dire. Ils ont leur drapeau, donc on sait qui ils sont. Alors, vous savez, lorsqu'il y a eu le Covid, on a fait des couvre-feux, personne ne pouvait mettre le nez dehors.
Ouais.
Donc, si vous faites...
C'est bien que c'est possible, non ?
C'est possible. Il y a des manifestations que l'on interdit pour trouble à l'ordre public.
Ouais.
Alors je suis navré pour ceux qui aiment le football. Si le football, si un événement, le Nouvel An, ou n'importe quel événement, provoque des armées étrangères qui viennent piller nos villes, eh bien, on les interdit pour trouble à l'ordre public, premièrement. Dernière chose, on est, y a eu le pèlerinage de Chartres il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Il y a eu
20 000 personnes.
20 000 personnes, c'est énorme. Qui se sont rassemblées au même endroit. Mmh. Ils ont fait la queue pour avoir leur ticket. Ils ont marché jusqu'à Chartres. Il n'y a pas eu aucun débordement. Si jamais il y avait eu un débordement quelconque, pas de pillage évidemment, mais je ne sais pas moi, des bagarres.
Il serait interdit.
On aurait interdit le pèlerinage de Chartres. On l'aurait strictement interdit.
Et pour des années,
on
évidemment.
On aurait arrêté tout le monde. Ils auraient pris 3 ans de prison chacun. Si un groupe identitaire avait fait une manifestation pour protester contre je ne sais quelle histoire.
Arrestation, prison immédiate.
On dissout, prison.
La preuve, ça a déjà été fait.
On interdit. Voilà, c'est ma conclusion. Donc, en fait, on peut faire. Il y a 1000 choses qu'on peut faire, mais on ne veut pas faire. Parce que on a peur aussi, pas que effrayer le bourgeois, on a peur d'avoir un mort, d'être accusé de racisme, etc.
C'est ce qu'on dit beaucoup d'ailleurs sur Macron, et dont on dit qu'il est absolument terrorisé par la population immigrée, surtout nord-africaine et surtout algérienne, et ce qui expliquerait sa relation un peu maso, sado-maso avec Tebboune et avec l'Algérie en général.
De Monsieur Macron à Monsieur Nunez, en passant Monsieur Barrot, qui vient nous expliquer aussi, lui, il est tellement brillant dans les affaires étrangères, qui vient nous expliquer aussi comment on doit faire traiter les choses intérieures. Ouais. Tous ces gens ont un culot monstre. Ils mentent comme ils respirent. Vous savez que Monsieur Nunez, il n'y a pas très longtemps au Parlement, 2 fois de suite, je pense, accusait les députés de fake news, de dire n'importe quoi, alors que c'était lui qui disait n'importe quoi.
Bah, juste avant de faire la pause du Bovino et de changer de sujet, je ne peux pas résister à vous faire une citation d'un tweet donc sur X de la députée LFI Clémence Guettet, qui répondait à Jordan Bardella donc sur les déprédations de ce week-end. Vous n'y connaissez rien en maintien de l'ordre, et vous n'étiez bien sûr pas dans les rues de Paris pour le sacre d'hier. Y était-elle? On ne sait pas. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont été empêchées de célébrer. Mon Dieu, que c'est mal dit. La police a chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement. Ils ont tiré des grenades sur des familles, sur des jeunes gens, simplement parce qu'ils étaient rassemblés. Voilà la réalité du terrain. La doctrine de maintien de l'ordre français doit être revue de fond en comble, etc. etc.
Enfin,
ceci pour que personne n'oublie, parce qu'on a peut-être dans notre entourage des gens qui votent pour LFI en pensant que c'est comme François Mitterrand. Il ne faut jamais oublier que ce parti, c'est le parti collabo numéro 1, collabo des forces d'invasion.
Mais LFI, vous pouvez leur montrer que le ciel est bleu en pleine journée.
Ah non, ils vous diront qu'il est rouge.
Qu'il est rouge.
Comme le grand drapeau de l'Union soviétique.
Voilà. En fait, ces gens-là, ils essaient de vous dire que le micro qui est devant vous, Pierre-Henri, n'est pas un micro, mais un éléphant rose.
Ouais.
Voilà. Et avec un culot incroyable. Enfin bon.
Enfin. Allez, on va faire une pause pour le Bobino. On se retrouve pour le deuxième sujet.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
On reprend donc notre émission, on va passer au deuxième sujet.
Le Proche-Orient.
Le Proche-Orient.
Toujours en ébullition, évidemment.
Mais comme les négociations traînent avec l'Iran, il y a un autre front qui est un peu secondaire, mais qu'on oublie parfois.
Mais qui est en ligne de compte quand même dans les négociations.
Absolument, parce que c'est le seul, le Hezbollah au Liban est la dernière succursale iranienne qui est encore efficace, même si très affaibli, assez efficace pour que les Iraniens l'utilisent contre
Et essayent de le sauver, d'ailleurs.
Voilà, parce que les
à la faveur des négociations.
Vous avez remarqué que les Houthis se tiennent à carreau.
Malgré toutes les menaces, hein, ils vont bloquer Bab el Mandeb, etc.
Ils se tiennent à carreau, pas par hasard, pas parce qu'ils sont gentils, hein, mais parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Il reste le Hezbollah au Liban, qui est énormément affaibli. Alors Israël est rentré dans le sud. Expulsé la population chiite du sud Liban. Ils leur ont intimé l'ordre de quitter leur ville et village jusqu'au fleuve Litanie. Donc c'est une bande de 20 km si je ne me trompe pas. Il y a quelques villages chrétiens dans le sud du Liban. Israël a maintenu les populations chrétiennes dans leur village. Ils leur ont assuré qu'ils ne les ont pas expulsés. Ils ont expulsé juste les chiites. Et ils ont fait en sorte qu'il y ait encore quelques routes pour qu'ils puissent s'approvisionner. Et là, ils sont en train de dépasser le fleuve Litanie.
Ouais.
Ils ont occupé le château de Beaufort, qui est un château croisé très important, qu'ils ont déjà occupé autrefois lorsqu'ils sont entrés
dans les années 80.
Voilà. C'est un point stratégique parce que c'est sur une
colline. Il y a eu un film d'ailleurs sur cet épisode, c'est 82 je crois,
82.
Un film qui s'appelle Beaufort tout simplement.
Oui. Ouais. Alors, il était occupé, le château de Beaufort n'a jamais été occupé par des Libanais. Hein. Il fait partie du Liban, si tant est que le mot Libanais et Liban existent, hein, parce que je conteste ce terme, mais parce qu'on parle tous du Liban, des Libanais. Moi j'attends que l'on me prouve que le Liban existe en tant que tel.
Vous savez, c'est comme les émeutiers de ce week-end, hein, on va vous dire qu'ils ont beaucoup ont des papiers français, on peut dire quoi, des hexagonaux peut-être,
ouais, c'est ça.
Des Français, je sais pas.
Liban, les Libanais, ouais, on peut, pourquoi pas, on peut aussi parler de la Syrie romaine ou de l'Empire romain.
Hein, oui, des Phéniciens.
Des Phéniciens.
Des Phéniciens.
bref. Et donc, revenons à nos moutons. Alors, le château de Beaufort était occupé par l'OLP de Yasser Arafat, autrefois, des Palestiniens. Après, par les Israéliens qui avaient viré les Palestiniens pour contrôler la région, ils occupent, parce que c'est sur une colline. Après, c'est le Hezbollah. Mmh. Et maintenant, c'est de nouveau les Israéliens. Jamais le pseudo-État libanais n'a occupé quoi que ce soit, ni le sud Liban, ni le château de Beaufort.
Hein. C'est une véritable forteresse, en fait, Beaufort.
Oui, absolument. Ouais. Absolument.
Qui a une importance tactique.
C'était Renaud de Sidon qui l'a tenu. Et qu'il l'a perdu malheureusement en 1190 contre Saladin qui l'a prise et c'était une des premières défaites des croisés dans cet endroit.
Et est-ce que cette prise de Beaufort donc par Israël marque un tournant en fait dans la guerre contre le Hezbollah?
Oui, parce que d'abord le Hezbollah, donc comme je l'ai dit, est extrêmement affaibli, il a perdu beaucoup d'hommes, il recule et donc et le fait de vider ces territoires de leur population aident, parce que les populations que l'on a, sur lesquelles on pleurniche tout le temps en disant oh, les pauvres réfugiés civils, ils sont ni civils ni réfugiés, enfin si ils sont réfugiés, mais si vous voulez, toutes ces populations, on compte 1 million de déplacés, sont des partisans du Hezbollah et ils sont son soutien logistique. Et leurs enfants sont des combattants du Hezbollah et quand ils sont trop petits, ils le seront dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois.
Malheureusement, la même situation qu'à Gaza, en fait,
avec
le Hamas.
Le fait de vider le territoire, ça aide beaucoup, parce que tant qu'il y a des pseudo-civils dans ce territoire, vous avez toujours des combattants, en réalité.
Oui, et des actions de guérilla.
Parce que c'est pareil, on ne peut pas séparer les combattants des civils quand on a des groupes terroristes comme ça. Et donc, le château de Beaufort, alors c'est d'abord après le fleuve, donc ça veut dire que Israël...
Voilà. Le fleuve Litanie,
Donc c'est entre le fleuve Litanie et le Zarani, qui est un peu plus au nord. Et donc Israël donc, a l'intention, par cette prise du château, de dépasser le fleuve Litanie. D'ailleurs, il commence à demander à des populations au-delà du fleuve au nord de partir.
Voilà.
De partir aussi. Et cette prise est très importante, parce que, c'est, encore une fois, ça compte. Quand vous êtes dans le château de Beaufort, vous contrôlez tout le sud du Liban et vous voyez même Israël, vous voyez. Donc là, vous avez une sorte de contrôle sur tout ce qui se passe en bas. Donc il n'y a pas besoin pour Israël, c'est ça qui est très important, de rentrer dans des villes et de perdre beaucoup d'hommes, des villes occupées par le Hezbollah, chiite, etc. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le château, vous êtes au-dessus de ces villes et vous les contrôlez. Vous savez ce qui s'y passe et vous pouvez limiter les lancements de roquettes, des choses comme ça. À partir du moment où vous avez le contrôle. Et puis en fait, l'objectif, c'est d'encercler ces grandes ville pour ne pas rentrer dedans, les encercler et contrôler ce qui s'y passe par le haut. Vous voyez, donc c'est une stratégie militaire, mais pour aller plus loin, il nous reste 3 minutes, au-delà du fait militaire, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc Israël, quel que soit le résultat des négociations entre les États-Unis et l'Iran, a décidé d'en finir avec le Hezbollah de toute façon.
De toutes les manières.
Il n'y aura pas de cessez-le-feu et de négociations avec le Hezbollah. Il y en aura avec l'Iran, c'est normal, c'est un État. Même si on ne l'aime pas, même si on aimerait que le régime change, c'est un État. Le Hezbollah n'est pas un État. L'État libanais n'est pas en faillite, parce que pour être en faillite, il faut exister.
Il faut exister, oui.
Donc en fait, il n'a jamais existé. Ils sont d'ailleurs en négociation avec l'État libanais et Israël. Bon, ils négocient avec quelqu'un qui n'a les moyens de rien faire. Donc, il peut vous promettre la lune, mais il n'a pas les moyens de l'atteindre. Donc, peu importe. Le Hezbollah, ils vont le faire disparaître. Mais encore une fois, on ne peut pas faire disparaître le Hezbollah tant qu'il y a une population d'1 million, 1,5 million de personnes qui le soutient. Donc, ils ont déplacé cette population. Et la grande question, c'est... Alors, on peut se dire, la population chiite, elle a été déplacée du sud. Elle peut aller dans la plaine de la Bekaa. Au nord-est du Liban, à la frontière syrienne, où c'est le deuxième fief du Hezbollah. Et de bien non, c'est ça le problème, c'est ça la question. C'est très bien, vous avez déplacé les chiites, Israël, mais ils n'ont pas été dans la plaine de la Bekaa, exprès d'ailleurs. Ils ont été à Beyrouth, chez les sunnites et un peu chez les chrétiens. Alors les chrétiens les rejettent. Les chrétiens ne veulent pas de réfugiés chiites, mais ils y vont quand même. Enfin, à Beyrouth, ils ont du mal à les rejeter, mais dans les zones 100% chrétiennes, ils les ont rejetés. Mais ces réfugiés, ils font exprès de squatter un peu des endroits où ils ne sont pas chez eux. Pourquoi ? Parce que ça provoque des tensions, des guerres civiles.
Ça, en fait, ça va faire comme les Palestiniens dans les années 60 et 70, en fait.
Absolument.
Les chiites du Liban vont faire comme les Palos
exactement.
Il y a 40 ans.
D'ailleurs, on essaie de les placer dans les anciens camps palestiniens. Et pourquoi ils font ça, eux? Ils font de la provocation. Moi, j'étais au Liban il y a une semaine. Je les ai vus. Alors, dans les régions chrétiennes, ils ne peuvent pas, ils sont rejetés, mais ils y vont quand même pour faire un tour. En foulard islamique, avec le drapeau Hezbollah. Et puis évidemment, tout le monde est armé au Liban. La presse française n'en parle pas, mais tout le monde est armé. Et tous les jours, il y a des accrochages. Tous les jours, il y a des chrétiens qui tirent sur eux. Hein. Et eux répliquent. Et donc en fait, il y a une mini-guerre à bas bruit qui a commencé. Non seulement il y a des accrochages, mais je vois de plus en plus de Libanais chrétiens. Alors c'était un sujet tabou jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais là, les langues se délient.
Tu parlais de se réarmer, je suis.
Ils sont déjà réarmés, mais là, ils parlent de sécession. Tous, même des gens pas politisés. Dès que je dis bonjour à quelqu'un, il dit j'en ai marre, j'ai sécession, on veut plus vivre avec ces gens, on ne fait pas partie du même pays. Tout le monde, pas 100% des gens, mais beaucoup de gens disent ça. Donc c'est un pays qui est tendu, au bord de la guerre civile. Et donc voilà, mais la grande question encore, c'est déplacer 1,5 million de population, ce n'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est que quoi en faire? Qu'est-ce qu'on fait?
En 20 secondes, vous vouliez parler d'une béatification.
Pardon, ça passe vite. Le patriarche Ouaïek, fondateur du Grand Liban, c'est le patriarche le plus connu de l'église maronite, était venu à Versailles en 1920 réclamer que le mont Liban, à 85% chrétien, devienne un Grand Liban. Ouais. Mais à l'origine, à l'époque, on pensait à des déplacements de population. Ils pensaient déplacer les chrétiens d'Orient, les faire venir chez lui, et déplacer les musulmans du Grand Liban vers le monde de musulmans. Ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Mais ce patriarche va être béatifié dans une semaine. Et il a écrit des lettres, mais dans une autre émission, je réciterai une de ses lettres sur le général Gouraud. Qui ne sont pas tendres avec les arabo-musulmans.
Et
c'est une très bonne chose que quelqu'un qui a écrit ce genre de lettres soit béatifié.
On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro chez Richard de Culture et Politique. Merci et bonsoir.
À bientôt.